Tu as déjà deviné, Clotilde. À moins que tu t'en sois souvenu. Il n'y a aucun doute. Vous avez le même père, Orsou et toi. Ton papa a eu cet enfant avec Salomé Romani, la fille de Speranza. Il l'a conçue en août 1988. L'enfant est né le 5 mai 1989. Il aura croisé son père 2 semaines, 16 jours exactement. D'ailleurs, « croisé » est un bien grand mot. Paul était marié. Marié et père de 2 grands-enfants, Nicolas et toi. Je suis même pas certain que Paul l'ait rencontré, l'ait reconnu, et même été au courant pour ce gamin. Des images lointaines tourbillonnaient sous le crâne de Clotilde. Un escalier en spirale, un phare, un bébé dans les bras de son père. Des images refoulées si souvent, jamais oubliées pourtant. Triées, peut-être. Comme une histoire à laquelle il manquerait des pages. Les dernières surtout. Celle qui explique tout. Il... Orsou est né handicapé?
Oui. Salomé ne voulait pas le garder. On n'avorte pas chez les Romani. Il n'y a pas plus catholique que cette famille-là. Alors elle a tenté de le faire passer, comme on disait dans un autre temps. Tu vois, comme dans Manon des Sources, quand le papet demande à la fin du livre « Il est né vivant ?» Vivant, oui, mais bossu. Orsou a un bras mort, une jambe morte, une partie du visage aussi. Et sans doute une partie du cerveau, celle qui commande la parole.
Orsou, son demi-frère? Clotilde n'arrivait pas à réaliser. Elle eut l'impression de mettre son cerveau en pilotage automatique, de faire appel à des réflexes professionnels conditionnés. Elle devait se concentrer uniquement sur le meurtre de Cherbonne et Spinello. Elle ferait le point plus tard. Se demanderait seulement alors ce qu'impliquait dans sa vie la présence d'un demi-frère.
« Ok, ok », lança-t-elle au gendarme en retraite. « Orsou est un enfant non désiré. Mais ça ne fait pas de lui un meurtrier. »
Le sergent Garcia avait l'air soulagé. Pour lui, le plus dur était fait.
« C'est le lien du sang qui te fait dire ça ?»
Un bref hoquet de rire fit clapoter sa chemise sur son ventre gras.
C'est vrai que chez les Idrissi, c'est pas courant de se dénoncer.
Clotilde éleva la voix d'un coup.
Baron ! Mon nom de famille est Baron, Maître Baron. Et pour l'instant, Orsou a simplement besoin d'un avocat.
Garcia chercha un pan de chemise sèche pour s'éponger, n'en trouva pas. Si la conversation se prolongeait, le vieux flic allait sécher là, déshydraté comme un cachalot échoué.
Et moi, j'ai besoin de votre aide !
Ajouta Clotilde. Elle se leva soudain et, tout en arpentant la pièce, examina les murs, les dossiers, les caisses rangées. Au bout de quelques minutes, elle se retourna et demanda au sergent Garcia l'autorisation de lui emprunter l'une des plus petites valises posées sur les étagères, contenant le nécessaire pour relever des empreintes digitales, un pinceau et un peu de poudre magnétique d'alumine et d'oxyde de cuivre.
Je t'assure, Clotilde, ce sont les empreintes d'Orsou sur le pistolet. Mais si ça peut t'amuser.
Je veux aussi son dossier de Cesario. Ou au minimum une copie des empreintes digitales d'Orsou.
Rien que ça?
Rien que ça.
Le vieux gendarme se leva et lentement alla chercher à la lettre R le dossier correspondant.
J'ai des copies de tout, plaisanta-t-il. Bien entendu, c'est interdit, mais en Corse, pour un flic qui a fait toute sa carrière ici, c'est une assurance vie.
Il ouvrit un dossier et en tira un simple cliché noir et blanc. 1 pouce et 3 doigts.
Tiens, la signature de ton frangin. Une main reconnaissable entre 1000. Une main d'ogre qui possède plus de force que celle de 2 hommes valides.
Merci.
Elle s'avança vers la porte, hésita, puis enfin se retourna. Après tout, c'est le sergent Garcia qui avait commencé à ouvrir la boîte au secret.
Au fait, comment elle s'y est prise, votre fille, pour mettre le grappin sur Nathalie et Angeli?
L'attaque était brutale, inattendue, mais le sergent Garcia ne broncha pas. Il rangea avec calme le dossier, puis prit le temps de s'asseoir, comme si l'effort pour se déplacer de quelques mètres avait suffi pour la journée. Son cou ruisselait.
Aurélia l'aimait vraiment. Ma fille est une femme raisonnable, très raisonnable, presque sur tous les plans. Mais bizarrement, côté sentiment, elle a toujours été attirée par les hommes hors du commun, les baladins, les funambules, les troubadours, comme un papillon de nuit gris attiré par la lumière. Son côté infirmière, peut-être.
Où veux-tu que ma pauvre Aurélia trouve un peu de fantaisie dans sa vie, si ce n'est en mettant un pierrot lunaire dans son lit ?
Ce n'était pas ma question, Cesareo, répondit sèchement Clotilde. Je vous demandais pourquoi Nathalie lui a dit oui. Pourquoi s'est-il marié avec une femme comme elle ? Sans faire offense à Aurélia, il pouvait avoir toutes les autres filles s'il le voulait. Les plus belles, les plus drôles, les plus jeunes.
Le gendarme laissa traîner son regard sur le mur recouvert de dossiers. Son assurance vie, venait-il de plaisanter. Il sembla hésiter à répondre, puis plongea.
Pour se protéger, Clotilde, c'est aussi simple que ça. Épouser la fille d'un flic ici, c'est se mettre sous la protection de la gendarmerie, c'est-à-dire de l'armée, de l'État, de la France.
Se protéger de qui ?
Ne sois pas si naïve, Clotilde. Se protéger de ton grand-père, bien entendu. Se protéger de Cassanou. Après l'accident mortel de tes parents, pendant des semaines, Nathalie a été atteinte d'une peur irrationnelle, oppressante, paralysante.
Clotilde repensa aux propos presque incohérents de Nathalie, ici même, à la Punta Rossa. À la seconde où la voiture de tes parents s'écrasait sur les rochers de la Petra Coda. À la seconde où ton frère, ton père et ta mère perdaient la vie. Je l'ai vu apparaître par ma fenêtre. J'ai vu ta mère aussi distinctement que je te vois. Elle m'a fixée, comme si elle voulait me voir une dernière fois avant de s'envoler. Est-ce la disparition de sa mère, puis cette délirante apparition qui l'avait rendu fou ? Même si Palma, par le plus incroyable des miracles, avait survécu à l'accident de la Petra Coda, avait été emmenée encore vivante dans une ambulance vers Calvi. Elle ne pouvait pas avoir arraché ses perfusions pendant le trajet pour se retrouver, debout et souriante, face à la maison de la Punta Rossa.
Il avait peur pour son projet ?
Avança Clotilde sans y croire elle-même.
Pour son sanctuaire des dauphins ? Après la mort de mes parents, Cassanou ne voulait plus en entendre parler ?
Le gendarme balaya l'argument d'un revers de main et postillonna sur les cartons alentour.
Cassanou en avait rien à foutre des dauphins. C'est de l'accident qu'il s'agissait. Je ne devrais pas parler d'accident d'ailleurs, puisque c'est d'un sabotage qu'il s'agit. Un écrou de rotule de direction ne se dévisse pas tout seul. Pour Cassanou, comme pour moi, il s'agit d'un meurtre, tout simplement. Et ce qu'il recherchait, c'est un meurtrier.
Un vertige étourdit Clotilde.
Nathalie, un meurtrier, sabotant la direction d'une voiture pour éliminer un rival ? Pour se débarrasser de mon père parce qu'il aimait ma mère ?
Ça ne tenait pas debout une seconde.
Et Cassanou n'a jamais soupçonné Cherbone et Spinello ?
Le fils de son meilleur ami ? Cherbone n'avait pas 18 ans à l'époque. Non, Clotilde, non. Pas à ma connaissance. Pourquoi est-ce que ce gamin aurait fait ça ?
Pour rien.
Pour rien.
Elle ouvrit la porte. Elle n'avait pas envie d'en révéler davantage. Elle devait se rendre au plus vite à Calvi. Elle devait interroger Orsou. Mais auparavant, elle devait vérifier une intuition, un simple test qui lui prendrait à peine quelques secondes. Elle allait sortir quand la voix forte du sergent Garcia la retint.
Une dernière chose, Clotilde. Je crois que c'est mieux que tu le saches si tu fouilles dans le passé. Aurélia l'a demandé à Nathalie pendant toutes ces années. Elle a tellement insisté qu'il a fini par lui répondre. Il lui a juré, sans ambiguïté, et je le crois. Il y a 27 ans, il ne s'est rien passé entre ta mère et lui. Ta mère était fidèle. Ta mère voulait seulement rendre ton père jaloux, mais elle n'aimait pas Nathalie.
Il marqua un silence.
Et Nathalie ne l'aimait pas non plus.
Des images contradictoires affluaient. Des images anciennes qui la faisaient douter. Elle mit la main sur la poignée. La voix du gendarme se fit presque autoritaire.
S'il te plaît, Clotilde, encore une seconde avant d'ouvrir.
Nathalie l'a avoué à Aurélia il y a des années, alors je préfère te prévenir avant que tu te fasses fusiller.
Avouer quoi ?
Il lui a avoué parce qu'il pensait ne jamais te revoir. Il lui a avoué parce que des années s'étaient écoulées et qu'il croyait que c'était une histoire passée.
Son visage s'éclaira d'un sourire désolé.
Il lui a avoué qu'en 1989, c'est toi qu'il aimait.
Le soleil explosa dès que Clotilde sortit de la pièce sombre. Il rebondissait sur chaque vague de la mer entourant la presqu'île, telle une rampe de spot aveuglant chaque acteur entrant sur scène. Il fallut quelques secondes avant que les ombres face à elle deviennent nettes. Aurélia s'accrochait au bras de Nathalie, comme s'il était un objet précieux lui appartenant. Un trésor exotique rapporté du bout du monde et jalousement conservé. En un flash, elle revit Aurélia 27 ans auparavant, plage de l'Ochelucia, accrochée au bras de son frère. Le même geste, exactement. Nathalie, immobile, fixait l'horizon, comme si la mer autour de lui n'était qu'une malédiction. À ce moment-là, Clotilde eut la certitude qu'Aurélia savait, pour cette nuit dans l'Arion avec son mari. Tant pis, tant mieux. Elle ne savait plus. Elle devait quitter la Punta Rossa. Elle devait se concentrer sur Orsu, sur le meurtre de Cherbon et Spinello, sur celui de Jacob Schreiber, sur le sabotage de la voiture de ses parents. Tout était lié. Tout était forcément lié. Elle devait appeler Franck également. Et Valentine. Elle n'avait aucune nouvelle d'eux depuis le bref texto de la nuit. Tout va bien. On revient dans quelques jours, comme prévu. Je tiens à toi. Elle marcha vers la passade sans un mot, sans pouvoir éviter une interrogation. Était-ce la dernière fois qu'elle voyait Nathalie ? Dans les films, les hommes amoureux s'arrachent des bras de celles qu'ils n'aiment pas et se précipitent dans ceux de l'autre. Et tout le monde n'attend que ça. Tout le monde lui pardonne. Personne n'a la moindre considération pour la femme officielle délaissée. Dans les films, tout le monde se range du côté du cœur, se fout de la raison. Nathalie ne bougea pas. Il ne fit pas un geste pour se desserrer de l'étreinte d'Aurélia. Clotilde monta dans la voiture. Peut-être lui enverrait-il un texto. Peut-être qu'une fois dans sa vie, une fois au moins, Nathalie serait capable de faire preuve de courage. Peut-être qu'il oserait larguer les amarres. Ce fut la dernière question que Clotilde se posa. Elle démarra. Clotilde, dès qu'elle eut parcouru une dizaine de virages, à l'entrée de Calvi, quelques centaines de mètres avant la gendarmerie, gara la passade sur le bord de la route. Fébrile, elle détacha sa ceinture et se pencha sur son sac à main posé sur le fauteuil passager. Elle se maudit intérieurement pour le bazar invraisemblable qu'elle y entassait, pour l'essentiel des papiers, vieux tickets, post-it griffonnés et oubliés, vagues prospectus distribués dans la rue et chiffonnés, tout ce qu'elle n'osait pas jeter par terre ou n'avait pas eu le courage de porter jusqu'à une poubelle. Elle déversa le tout sur le siège, étala le contenu, pour attraper du bout des doigts ce qui l'intéressait. Une lettre, dont elle relut les premiers mots. Maclo, je ne sais pas si tu es aussi entêtée aujourd'hui que tu l'étais quand tu étais petite, mais je voudrais te demander quelque chose. Se calmer. Procéder avec méthode, pour une fois. Elle posa la lettre sur le tableau de bord et sortit de la valisette le pinceau et la poudre à empreintes. Elle avait vu une fois ou deux des flics le faire, sur l'ordonnance d'un juge des affaires familiales, réduisant de splendides lettres d'amour à de sordides pièces à conviction d'une relation interdite. Il fallait attendre quelques secondes. Clotilde en profita pour fouiller à nouveau dans ses poches. Du bout des lèvres, elle souffla sur la lettre pour que le papier n'accroche que quelques grains de poudre noire, puis attrapa le coin entre son pouce et son index droit. De la main gauche, elle tenait le carton en noir et blanc confié par Cesare ou Garcia. Elle les approcha pour que ses yeux puissent comparer, à défaut de les superposer. Cela dura une seconde pour une certitude. Ensuite, ses doigts tremblaient trop. Les mots dansaient avec frénésie. Ma vie tout entière est une chambre noire. Je t'embrasse. P. Parmi les différentes empreintes, brouillées, apparaissait celle d'une main d'ogre, celle d'Orsou. C'était Orsou, cet analphabète, qui avait écrit ce courrier. Ou au moins, qui l'avait porté.